Interview.
1 du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur David Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Alors David Arnaud, vous êtes chargé de mission au sein de la SMRD pour conduire le dossier SAGE 2050 que vous présenterez aussi dans l'émission. Et à vos côtés, Pascal Baudin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire à Bellegarde-Andiwa et aussi vice-président au sein de la CCD pour les questions de l'eau. Et ensuite, vice-président de la SMRD aussi. Et vous faites partie de la commission locale de l'eau. Et également, vous êtes au bureau de l'Aigle. Tout ça, vous nous l'expliquerez. Hein. Alors, vous êtes ici pour nous présenter le projet SAGE 2050. Il s'agit de réaménager et de repenser. Pensez aussi l'eau dans le bassin versant de la Drôme. Et ça, c'est la mission de SAGE.
Oui. Ah, peut-être qu'avant de rentrer dans SAGE Drôme 2050, juste rappeler d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. On est sur un bassin versant, celui de la rivière Drôme, qui concerne 3 communautés de communes. Celle de la communauté de communes du Diwa, mais également celle de la 3CPS, communauté de communes du Crétois, Pays de Saillant, et celle de la communauté de communes du Val-de-Drôme. On est sur un territoire qui est un bassin versant, qui s'affranchit des limites administratives, donc, et pour lequel c'était une première en France. Il faut revenir dans les années 90, 97 exactement, premier SAGE de France, premier schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ça veut dire que, en plus d'avoir gagné en qualité de l'eau sur la rivière en presque 30 ans, plus de 30 ans, on a aussi gagné en qualité de concertation. Et c'est un point qui permet aujourd'hui de rentrer dans cette procédure SAGE Drôme 2050. L'enjeu, il est de taille, c'est de savoir quelle adaptation du bassin et des usages de l'eau par rapport aux effets du changement climatique. Et ça va nécessiter qu'on emmène avec nous, on va dire, tous les acteurs de la gestion de l'eau qui ont un bout de la réponse entre leurs mains.
Alors, on abordera un peu le bilan aussi de cet exercice précédent et ce que ça a révélé aussi sur des problématiques à venir, entre autres. Pascal Baudin, quelle est votre intervention au sein de cette réforme, la révision du SAGE 2050?
Eh bien, je crois qu'effectivement, il faut partir d'un constat. On a aujourd'hui une situation, en plus 2022, une année qui va être difficile à passer. Donc, qui dit réécriture de ce schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, il faut effectivement tenir compte de l'évolution. On était parti l'année dernière en se disant on réécrit ce SAGE et il nous a semblé effectivement important, voire nécessaire, de se pencher sur la perspective eau à l'horizon 2050. Il n'était pas question pour nous de réécrire un document qui allait de lui-même presque être déjà faux avant de sortir. Donc on a retardé l'écriture de ce schéma d'aménagement pour pouvoir intégrer cette étude. Parce que ça nous semble être primordial que l'année de 2022, si elle est exceptionnelle, que sera 23, 24, 25, si c'est des années exceptionnelles aussi, on n'est plus dans l'exception, on est dans effectivement l'évolution de notre rivière, l'évolution de notre masse d'eau. Et il faut absolument qu'on sache dans les années à venir quel est le comportement de chacun pour pouvoir faire face à l'avenir. Alors moi, je parle de comportement de chacun parce que il n'est pas question aujourd'hui de pointer tel ou tel consommateur ou tel utilisateur de l'eau. On a bien un défi collectif à relever. C'est pas le premier arrivé, premier servi. C'est effectivement, on a une masse d'eau qui se raréfie et qui va se raréfier l'été. On a des besoins d'eau. Il faut absolument que chacun adapte son besoin par rapport à ce qu'on a de disponible, que ça soit le particulier, que ça soit la commune, que ça soit l'agriculteur et que ça soit l'industriel. On a tous un défi à relever si on veut que l'eau coule toujours dans la rivière.
Pour cette problématique de sécheresse, cela amène des complications géologiques aussi, puisque la terre s'asséchant révèle aussi d'autres problèmes. On a pu avoir l'expérience à Ponté, je crois, avec ces anciennes décharges qui se sont mises à jour. Et je crois qu'il y a quelques problématiques de ce style aussi dans d'autres villages.
Alors, on fera le point après effectivement les anciennes décharges. Sur l'histoire de la consommation d'eau, moi je dirais qu'on avance sur plusieurs fronts. Alors d'abord au niveau du syndicat mixte Rivière Drôme, on a embauché récemment une personne qui est chargée effectivement de travailler sur ce quantitatif. Et puis après, je dirais qu'à chaque communauté de communes, 2026, c'est une obligation légale de compétence, prise de compétence eau assainissement de la part des communautés de communes. Donc dès aujourd'hui, par exemple, nous dans le Diois, on va signer une charte en fin d'année 2022 sur le comportement des communes. On a besoin de mesurer ce qu'on consomme. On a besoin de retrouver nos consommations bien établies avec des compteurs généraux, des compteurs dans chaque maison, des compteurs dans les bâtiments communaux pour savoir où va l'eau. On a besoin effectivement de maîtriser cette consommation. C'est un point important. Les fontaines dans des villages doivent être équipées de compteurs. À l'heure actuelle, elles devraient être fermées ou elles seront fermées suite à l'arrêté cadre sécheresse qui va devoir être publié dans les jours qui viennent là. Et voilà, il faut vraiment que le comportement change. Alors au niveau des décharges, effectivement, c'est un peu la contrepartie de ce qui se passait il y a 40-50 ans, hein, où la rivière était, il y a 50 ans, la rivière était le dépotoir, était la décharge, était les égouts. Donc tout ça, ça a changé. Le problème, c'est qu'on est un peu rattrapé par le temps, où effectivement, il y a certaines berges qui subissent de l'érosion et on voit apparaître des décharges. Donc c'est une compétence que c'est... je dirais que la conjoncture a fait qu'on a pu mobiliser des fonds cette année. Donc dans notre programmation d'investissement, on s'occupe effectivement cette année de la décharge de Ponté, de la décharge de Verchenis. On a trouvé les fonds nécessaires à mener ces opérations. Enfin, quand je dis fonds, on a trouvé des aides. Hein. Il y a toujours une participation des citoyens à travers la taxe GEMAPI pour effectivement régler ce problème.
Ouais, il y a aussi les communes hein, qui ont réussi à trouver l'argent. La commune de Ponté, la commune de Verchenis ont réussi à trouver des fonds pour traiter ces sujets-là. On hérite d'un passé et ce passé n'est pas très glorieux du point de vue des décharges. C'était monnaie courante que d'aller à la Drôme. Et quand on allait à la Drôme, c'était pour y mettre ses déchets. Donc de cette habitude-là, on en a des reliques et c'est ces reliques qu'il faut traiter. Avec aujourd'hui, Pascal l'a dit à l'instant, un problème de compétence. C'est pas vraiment la compétence de la commune, c'est pas vraiment la compétence de la communauté de communes, c'est pas vraiment la compétence du SMRD, c'est pas vraiment la compétence de l'État. Mais malgré tout ça, on a réussi côté SMRD à créer une dynamique autour de ce sujet-là et surtout à trouver de l'argent pour traiter ces deux décharges qui ont quand même bien pollué la rivière pendant des années, le temps qu'elle soit évacuée. Donc là, ça y est, c'est des travaux qui vont avoir lieu cet automne. On va communiquer parce que ça a des conséquences aussi, notamment pour les pratiques récréatives. On va avoir des engins en rivière et des choses comme ça. Donc il faut que les auditeurs se mettent bien en tête qu'il y aura un impact ponctuel sur la rivière, parce qu'on évacue une décharge, il y aura des engins, mais que c'est pour le bien-être de cette rivière, justement.
Et puis, d'informer le public au bon moment.
Oui,
exactement. C'est la problématique qu'il y avait eu il y a quelques années à dire, où personne n'avait été averti de ce chantier, et ça avait choqué. Voilà. Je parlais tout à l'heure aussi des infrastructures des canalisations. Est-ce qu'elles-mêmes pâtissent du fait de la sécheresse? Est-ce qu'il peut y avoir des ruptures de canalisation à l'heure actuelle? Est-ce que ça aussi, il y a une politique et une gestion de cette distribution de l'eau, d'ailleurs?
Alors, dans les communes, on a souvent des réseaux qui peuvent être anciens, voire très anciens. Alors effectivement, on est en sous-sol argileux, donc l'argile se rétracte. Il peut y avoir effectivement des problèmes. Moi, je dirais que depuis un certain nombre d'années, la communauté de communes du Diwa, on a signé un protocole avec l'agence de l'eau, le département et l'État, qu'on a appelé, nous, contrat de progrès, c'est-à-dire on a passé un certain nombre de directives de façon à moderniser un peu nos infrastructures. Donc on attaque aujourd'hui le deuxième contrat de progrès qui engage quand même 9 millions d'euros de travaux dans toutes les communes, dans les 50 communes du Diwa. Donc un programme ambitieux. Qui effectivement participe à l'amélioration du rendement des communes dans la distribution de l'eau.
L'enjeu qu'il y a derrière, hein, c'est aussi l'enjeu d'économie d'eau. On en parlait tout à l'heure par rapport aux particuliers, mais il y a un enjeu d'exemplarité au niveau du travail des collectivités pour qu'on ait des rendements qui soient les moins pires possibles, les meilleurs qui soient. Viser 100%, c'est impossible. L'objectif aujourd'hui, c'est plutôt 75% de rendement. Et ça peut paraître déjà énorme d'avoir 25% de fuite. Mais quand on est sur des communes qui sont très rurales, comme c'est le cas ici, c'est déjà un bel objectif parce que ça nécessite une surveillance de tous les jours. Et Pascal l'a indiqué, connaître, c'est la première bonne mesure de gestion d'un réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en cours, ce qu'on appelle la gestion patrimoniale de son réseau, de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible, qu'on ait un service aux populations qui soit le meilleur qu'il soit. Mais par contre, derrière aussi, ça a des conséquences financières. Donc, le prix de l'eau aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il y aura sans doute des évolutions. On se rend bien compte que tout augmente, tout le prix de l'énergie augmente. Il y a des grandes chances que le prix de l'eau aussi augmente à terme. Ça se raréfie. Les infrastructures coûtent de plus en plus cher. Donc voilà, on est dans cet équilibre aussi à trouver entre qualité de service, qualité de rendement et puis aussi un prix qui soit, on va dire, équitable sur les territoires.
La problématique d'Iwaz, c'est quand même 120, pour les 50 communes, hein, c'est 122 ressources. 500 km de canalisation et tout ça pour 9 500 abonnés. Donc on a une équation très difficile à résoudre, mais c'est le challenge, hein, qu'on a.
Alors, avant de continuer, j'aimerais aussi pour les auditeurs qu'on puisse préciser ce qu'est une commission locale de l'eau à laquelle vous faites partie. Qu'est-ce que c'est donc cette commission et quelles sont ses actions et qui y siège?
Alors, la commission locale de l'eau, c'est le Parlement de l'eau. Parlement parle. Donc effectivement, un certain nombre de personnes qui sont autour de la table, ça va des élus locaux, des représentants de l'État, des représentants de la rivière, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les gens du canoë, que ce soit la Frapna, que ce soit les agriculteurs, j'en oublie certainement, David.
Les carriers, il y a pas mal de sièges qui sont occupés par effectivement le monde agricole, qui est un des gros usages du bassin versant. Mais enfin, l'idée de cette commission locale de l'eau, c'est qu'on ait une pluralité. Et c'est surtout qu'on ait les différents prismes des utilisateurs de la rivière qui se réunissent autour d'une table pour parler de ce sujet-là. Et qui dit se parler, c'est aussi s'écouter. Et quand je parlais de qualité de concertation, après 30 ans d'exercice au sein de cette clé, on a cette qualité d'écoute, cette qualité de dialogue. Alors, je laisserai Pascal compléter. Les membres de la clé ne sont pas tout le temps d'accord, et heureusement. Mais en tout cas, il y a une certaine maturité pour que, même dans le désaccord, on arrive à trouver des points de convergence. Et c'est ça aujourd'hui la force de la commission locale de l'eau. C'est qu'au-delà de l'application d'un texte réglementaire pur et dur, l'objet de la clé, c'est d'être facilitatrice entre des injonctions qui peuvent être de niveau européen, national ou même local, avec des enjeux que doivent mener les acteurs locaux de notre territoire à nous. Et l'idée, c'est d'arriver à ce que il y a un mouvement d'ensemble dans des objectifs qui soient communs et partagés.
Parce qu'en plus, dans ce quantitatif partage de l'eau, il y a beaucoup de personnes qui peuvent oublier le milieu à qui on doit laisser de l'eau si on ne veut pas avoir tous les poissons le ventre en l'air. Donc il y a bien le milieu, l'agriculture, les communes, l'industrie. Et voilà, on doit par la discussion, résoudre nos différents problèmes. Et moi, je dois dire que c'est quand même un endroit assez étonnant parce qu'effectivement, David l'a dit, on peut avoir des points de vue diamétralement opposés. On se réunit une dizaine de fois par an. J'ai jamais eu le sentiment de quitter une réunion de la commission locale de l'eau avec un profond désaccord du point de vue qui a été trouvé. Donc c'est vraiment un consensus et je crois que c'est un lieu où les gens se respectent et se parlent entre eux.
Nous en venons aussi au SAGE, hein, 2050, avec un objectif, d'après ce que je lis, qui prendra davantage en compte les risques potentiels donc, et, du changement climatique. Alors, est-ce que vous avez déjà quelques pistes sur les risques potentiels à venir et qu'est-ce que vous envisagez à l'heure actuelle ?
Le principal risque que l'on voit vis-à-vis des effets du changement climatique, c'est l'impact sur la diminution de la ressource en eau. Dans cette période estivale, qui est la période où on a le plus de monde sur le bassin en plus, c'est le moment où on va avoir des diminutions. Des premières infos que l'on a à des échelles qui sont supérieures à la nôtre, parce que cette question du changement climatique, elle est présente dans toutes les politiques aux différentes échelles. Il y a un travail qui est en cours à l'échelle du bassin du Rhône. On a eu une restitution par l'Agence de l'eau il y a deux semaines de ça. Et on a des premiers éléments. On voit qu'il y aura des effets très forts, notamment sur les affluents du Rhône. On a des cas de figure. On a des baisses flagrantes de débit en période d'étiage. Hein, c'est cette période du 1er juin au 15 septembre, grosso modo. Et sur la rivière Drôme, ça serait quelque chose qu'on va repréciser, nous. Mais les indicateurs et les faisceaux indiquent finalement une baisse de presque 30% des débits sur le mois d'août. Donc ça veut dire un tiers de ressources en moins à un moment où déjà on n'a pas beaucoup. Donc voilà, on a ces premiers éléments-là. Nous, avec SAGE Drôme 2050, l'idée, ce n'est pas de refaire des modèles pour refaire des modèles, c'est de voir comment est-ce que concrètement, ça va avoir des impacts sur la ressource en eau et sur les usages. Sur la ressource, c'est aussi sur la qualité des milieux. C'est aussi sur la qualité des espèces qui sont en place. C'est aussi sur les zones humides. C'est aussi sur l'impact sur l'inondation. Parce qu'on a tendance à oublier qu'avec l'effet du changement climatique, c'est une baisse des débits l'été, mais c'est aussi une hausse des précipitations et donc des crues dévastatrices qu'on peut avoir à l'automne ou à l'hiver. Donc c'est un ensemble de tout ça. Donc il y a un modèle hydroclimatique, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais comme son nom l'indique, c'est un mélange de voir les effets du climat sur l'hydrologie et derrière sur les différents compartiments que l'on retrouve dans une rivière. Donc un premier diagnostic de la sensibilité de notre territoire à ces effets du changement climatique. Une fois qu'on aura partagé ce diagnostic, qui va être un gros morceau de cette étude, ben, ça va être de trouver des solutions tous ensemble. Je reviendrai sur la première phase de l'étude qui n'est pas inintéressante, qui est un travail de concertation qu'on est en train de mener.
Donc voilà, il y a du pain sous la planche et moi je dirais qu'il faut absolument qu'on arrive à écrire un document qui soit lisible par tous, qui soit compréhensible. Et moi je dirais que c'est presque un document que l'éducation nationale devra s'approprier parce que le consommateur de demain il est à l'école et je crois qu'il faut qu'on arrive à sensibiliser la jeunesse. On a parlé tout à l'heure d'ordures ménagères. Le comportement il nous a fallu une bonne vingtaine d'années pour changer entre le moment où on balançait un sac de poubelle n'importe où dans la rivière et le moment où on l'a mis dans un conteneur pour effectivement s'en occuper. Donc l'eau, c'est un peu la même chose. Il va falloir que le comportement y change progressivement et c'est la jeunesse qui va changer. C'est eux.
Alors, il y a deux approches hein, du changement. Et on parle soit de transition, soit de rupture. Et le choix des termes, il est assez, assez déterminant sur la manière de l'aborder. La transition, c'est quelque chose qui est progressif et la rupture, c'est quelque chose qui est brutal. Dans les deux cas de figure, c'est du changement qui est appelé. Donc, est-ce qu'on sera dans la transition, est-ce qu'on sera dans la rupture? Ça, c'est quelque chose qui va se décider au sein de la commission locale de l'eau grâce à cette étude. Mais en tout cas, il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui. C'est qu'on a des changements de fond à porter. Qu'ils soient progressifs ou qu'ils soient brutaux, c'est des changements de fond. Si on prend l'exemple, par exemple, du monde agricole, le plus visible aujourd'hui, c'est l'agriculteur sur son exploitation. Et on cherche à ce qu'il y ait des modifications des pratiques, notamment pour qu'on puisse garantir une alimentation sur le bassin, mais tout en respectant la ressource en eau qui est disponible pour le faire. OK, il y a l'agriculteur, mais l'agriculteur, il n'est pas tout seul. Il est dans un écosystème, on va dire, avec des gens qui sont en amont de lui, des gens qui sont soit prescripteurs, soit des fournisseurs. L'agriculteur, il y a des gens qui sont en dessous de lui, qui vont transformer sa production, et cette production, elle va être ensuite distribuée avec les consommateurs qui sont au bout de la chaîne. Et ça veut dire que l'agriculteur, ce n'est qu'une maillon dans une chaîne. Et pour arriver à faire du changement sur ce qui va se passer sur l'exploitation agricole, il faut qu'on ait travaillé sur l'ensemble des filières qui sont en amont et en aval de l'exploitant. Donc, pour vous dire, et c'est la raison de ce travail de concertation qu'on est en train de mener, c'est de n'oublier personne en chemin. De bien veiller à ce que, si on doit faire du changement progressif ou brutal, je le redis, on est bien avec nous, l'ensemble des acteurs, pour le faire. C'est sûr que sur certaines thématiques, ça va être du temps long. Sur d'autres, on peut appeler à des changements beaucoup plus rapides. Et c'est vraiment ça, sa jambe 2050. C'est de savoir où est-ce qu'on positionne le curseur en fonction des sujets, en fonction de l'urgence, en fonction du contexte socio-économique. On ne pourra pas non plus tout balayer d'un revers de la main en disant que avant c'était mal et maintenant ça va être mieux. Non, il y aura forcément des choses qui vont être dans la concertation, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a du changement qui est appelé.
Alors, tout ça nécessite des études hein, de territoire. D'ailleurs, il y a un partenariat avec Actéon, hein, vous allez pouvoir nous le présenter, et aussi CEREG. On pourra peut-être énoncer ce que sont ces acronymes.
Alors, ce n'est pas forcément des acronymes qu'on pourra détailler dans précisément lettre par lettre. En tout cas, Actéon, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les démarches de territoire et dans la concertation. Ils ont à leur palmarès tout un tas de travail comme Export 2070, comme des plans d'adaptation au changement climatique à différentes échelles. Donc, eux, c'est vraiment faire l'animation sur les territoires, faire en sorte que les gens puissent se parler. Et donc, on s'adjoint l'expérience de ce prestataire-là pour que justement, on monte encore en compétence sur ce travail de concertation. Ça, c'est le premier partenaire qui est Actéon. Et le deuxième, c'est le CEREG, qui est un bureau d'études qui est spécialisé en modélisation hydroclimatique, qui est spécialisé notamment sur des études hyper pointues sur l'impact cumulé des retenues collinaires, qui va être aussi un des sujets de sa jambe 2050. L'adaptation de l'agriculture, ça pourrait, j'emploie le conditionnel, ça pourrait passer par un travail sur la ressource en eau. Il y aura aussi un travail sur la manière de concevoir l'agriculture sur le bassin. Mais en tout cas, on a besoin de savoir, si on doit aller sur ce sujet des retenues, savoir quel va être l'impact. Et donc ça, CEREG est spécialisé dans ce type de travail un peu pointu, de voir l'impact sur la biologie des rivières, l'impact sur l'hydrologie, l'impact sur la continuité écologique que l'on a dans les cours d'eau. Donc c'est tout cet aspect-là qu'il va falloir qu'il nous détricote, de manière à ce que quand on va en discuter au sein de la commission locale de l'eau, tout le monde ait entre les mains les tenants et aboutissants des décisions à venir.
Une question naïve, justement, on parle d'intempéries ou de grosses tempêtes, là où des trombes d'eau tombent, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur cette captation possible de cette eau qui est exceptionnelle ?
Alors c'est effectivement un gros débat, hein, le stockage de l'eau quand elle est abondante. David l'a dit, je crois qu'il faut étudier les tenants et les aboutissants d'une telle situation. Ça va être un sujet difficile avec l'agriculture, hein, ce stockage, les retenues collinaires, combien on peut en avoir, quel est l'impact. Je crois que dire qu'il y aura une retenue collinaire par exploitation, moi ça me paraît être un peu utopiste. Il y a certaines personnes qui disent que cette histoire de ce combat de l'eau, ça sera des larmes et du sang. J'espère qu'on n'en sera pas à ces niveaux-là, mais voilà, il y a du débat difficile dans les années à venir, sachant qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'eau en agriculture, c'est 25% du territoire. Il y a 75% qui fait aujourd'hui sans eau. Ben voilà, faut aussi savoir qu'il y a de l'agriculture qui fonctionne sans eau. Alors, il y a des agriculteurs, je pense au maraîchage, des choses comme ça, il y a vraiment un réel besoin. Il y a des techniques pour consommer moins. Il y a des choses comme ça. Je crois qu'il y a vraiment besoin d'adaptation. Il y a peut-être des productions végétales qu'il va falloir abandonner. Il y a peut-être des productions végétales qu'il va falloir implanter. Tout ça fait partie, effectivement, de cette collaboration qu'on aura aura avec la Chambre d'agriculture, avec les agriculteurs. C'est des discussions qui vont avoir lieu.
Pour compléter sur le volet agricole, sans vouloir se focaliser sur seul usage, encore une fois, l'idée de la commission locale de l'eau, c'est surtout de ne pas ostraciser, c'est de ne pas monter les usages les uns contre les autres. On parle de l'agriculture parce que c'est vrai que c'est le sujet du moment avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui avec l'année 2022 qui est tout à fait exceptionnelle dans l'impact qu'il y a sur les exploitations agricoles, l'impact qu'il y a sur les milieux. Donc effectivement, c'est le plus gros consommateur d'eau sur le territoire. À l'échelle départementale, Pascal l'a dit, c'est 25% de la surface agricole utile du territoire qui est irriguée. À l'échelle nationale, c'est 6%. Donc on est avec une particularité drômoise, on est avec des systèmes d'exploitation qui ont leur propre fonctionnement, une très grande diversité de l'agriculture. Toutes les productions à l'échelle nationale, on les a dans le département de la Drôme. Donc il faut qu'on fasse avec cette agriculture qui est amenée à évoluer. Ensuite, sur la question des retenues, on a l'exemple pas très loin du lac de Serre-Ponçon, 1 milliard de mètres cubes, la plus grosse retenue qui existe en France. Eh bien, cette année, elle est loin d'être pleine. Elle est même très largement déficitaire. On est en dessous des 10 mètres vis-à-vis de la côte touristique qui est notamment visée en période estivale. Pour vous dire que c'est pas la solution miracle, les retenues. Il va peut-être falloir trouver dans des multisolutions un panachage de différents types d'actions pour arriver à faire face. Donc c'est aussi là, aujourd'hui, on est un peu dans une posture de prudence par rapport à la question des retenues, notamment vis-à-vis de leur impact. Hein, c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Il y a aussi un impact économique. S'il faut aussi pouvoir se payer une retenue collinaire. C'est des investissements qui sont très lourds. Et il faut être bien sûr que dans 20 ans, ce ne soit pas des regrets que l'on ait vis-à-vis de cette retenue qui ne se remplit pas ou parce qu'il a trop d'impact sur la rivière.
D'ailleurs, qu'en est-il des nappes phréatiques à l'heure actuelle ?
C'est ce que j'allais un peu aborder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, cette eau qu'on a l'impression de voir passer un peu rapidement avec certains phénomènes pluvieux, et ben cette eau, il faut savoir qu'effectivement, elle participe à la recharge des nappes plus ou moins souterraines. Donc, encore une fois, prudence, cette eau qui tombe, cette eau qui passe dans la rivière, elle a à un moment donné une utilité. Alors, effectivement, le réflexe, c'est de se dire, quand on la voit passer à 10, 15 heures après, elle est peut-être en Méditerranée. Encore une fois, il faut étudier tout ce qui reste dans le sol.
Ensuite, sur le projet SAGE, là, il y a 5 phases qui vont être sur le programme. Là, à l'heure actuelle, c'est la phase 1 qui concerne une préparation de la concertation. Alors, est-ce qu'on peut peut-être définir cette phase ?
Alors, on va le redévelopper, on l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure, c'est cette préparation de la concertation. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une phase d'entretien avec les principaux acteurs, de manière à ce que l'on puisse déjà savoir un peu leur ressenti par rapport à cette démarche que l'on mène, voir quels sont pour eux les acteurs à ne pas manquer, ce qu'il faut qu'on emmène avec nous. Et puis ensuite, de voir comment est-ce qu'on va construire ce travail de concertation. Sans vouloir aller avant les résultats de cette première phase, on s'oriente quand même sur des ateliers qui vont être thématiques, qui vont avoir lieu en deux temps, dès la présentation des résultats du diagnostic, qui est la deuxième phase de l'étude. Et une fois qu'on aura construit des réponses, des scénarios plutôt, il y aura aussi cette phase de construction avec des ateliers thématiques. Grosso modo, on part sur plus d'une centaine d'acteurs que l'on va mobiliser dans cette phase-là. Donc ça va être des gros temps d'échange. Donc la première phase, c'est vraiment ça, c'est préparer. La deuxième, c'est le diagnostic de la sensibilité du territoire au changement climatique, on en a parlé. Ensuite, c'est la construction des différents scénarios. Comment est-ce que le territoire va évoluer ? Est-ce que si on ne fait rien, qu'est-ce que ça donnerait ? Si au contraire, on vise une exigence beaucoup plus forte, quelles vont en être les conséquences ? Donc voilà, construction de scénarios. Et enfin, phase 4 et 5, construction de la stratégie en phase 4 et en phase 5, c'est quelles sont les actions que l'on va mettre en face, quel calendrier, quelle maîtrise d'ouvrage, quel coût, qui paye. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on va devoir aborder tout au long de cette étude.
Et justement, dans cet abord, le public, lui, quel est son positionnement sur cette interrogation ?
Alors déjà, il y a un premier point sur lequel on est très sensible, c'est d'informer à chacune des phases le public, le grand public, de manière à ce qu'on puisse avoir aussi des retours de leurs réactions. On ne rentrera pas dans un système de participation comme on a pu le faire auparavant avec le projet SPAR, mais en tout cas, il y a cette volonté qu'on ait une démarche de communication vers l'extérieur, qu'on soit en capacité d'avoir des réactions, et puis qu'ensuite, le grand public sache bien qui est-ce qui est présent dans nos instances. L'idée, c'est d'avoir vraiment une grande transparence vis-à-vis de du pilotage, de qui est-ce qui va prendre les décisions, et qu'on puisse aussi aller solliciter les différentes personnes qui sont présentes dans ces instances, que le grand public en ait connaissance, de manière à ce que derrière, il y ait des relais. En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on va fonctionner avec des systèmes de relais.
Pascal Baudin, vous-même êtes maire donc de Bellegarde en Diois. Vous avez la gestion de l'eau, hein, de vos administrés. Vous avez une certaine idée aussi de son utilisation.
Oui, alors l'été est difficile parce que moi sur la commune j'ai effectivement la partie village Bellegarde qui a sa propre ressource et puis un hameau un peu au-dessus, Mont-la-Huc, qui a aussi sa ressource en eau puisqu'on est sur des distances kilométriques un peu importantes. Et effectivement sur la ressource Mont-la-Huc, tout de suite j'ai encore mesuré ce matin, là on était à 6 litres 5 minutes. Donc pour 27 abonnés, donc c'est plus que tendu, mais je suis ça de près, je suis au réservoir matin et soir, ça me préoccupe beaucoup parce que c'est effectivement le mois d'août où les gens arrivent, normalement la consommation, la production de 6 litres et demi, je l'ai fin août, là je l'ai à la mi-juillet, donc ça m'inquiète un peu, mais je sensibilise les gens, je veille à ce que mon réseau n'ait pas de fuite et il n'en a pas puisque régulièrement je fais des relevés de compteurs. Donc entre mon compteur général et les compteurs abonnés, j'ai pas d'écart, donc ça veut dire que j'ai pas de fuite. Donc c'est vraiment dans le comportement chacun. Donc moi je souligne qu'effectivement la population, quand elle est face à ce défi-là, elle sait réagir. Donc voilà, il faut étudier de son comportement journalier et de se dire qu'on peut descendre très bas dans la consommation d'une maison à partir du moment où on a cette attention permanente.
Cette conscience de cette gestion de l'eau, vous en tant que maire, est-ce qu'elle est partagée par la cinquantaine de maires du territoire ?
Elle se partage de plus en plus. Quand on a fait un premier tour je pense à cette commission eau mise en place par la communauté de communes, je crois que c'est Olivier Touring qui l'avait montée en 2016. 2016, j'y ai assisté en tant que maire à l'époque, parce que moi je suis maire depuis 95, et j'avais l'impression c'était un petit peu hallucinant, c'est-à-dire que effectivement c'était des postures très méfiantes vis-à-vis de l'agence de l'eau, il y avait des tensions, et je crois qu'au fil des années on a fait passer entre Olivier et moi, on a fait passer un discours, ce qui fait qu'à la fin de cette année on va vraiment avoir une charte de qualité sur l'utilisation de l'eau, le traitement de l'eau et puis la partie financière de tout ça. Et je pense qu'on a de plus en plus l'adhésion des communes. Et au dernier conseil communautaire, d'ailleurs, on a effectivement présenté le volet eau de cette charte qui a été approuvée à l'unanimité. Donc moi, je dirais que avoir repris ce travail d'Olivier et moi travaillant derrière, je suis assez fier effectivement de ce premier passage en conseil communautaire qui n'a soulevé aucun problème.
À la suite de ces diagnostics et concertations, il y aura une proposition de scénario d'évolution de territoire. Donc ça, c'est une phase, on ne peut pas trop en parler encore, mais est-ce que vous avez certaines idées peut-être qui seraient à conjuguer par exemple ?
En fait, c'est surtout ça, c'est que dans la construction des scénarios, il n'y a pas de censure. On laisse libre cours aux expressions. Il y aura déjà un scénario, c'est si on ne fait rien, comment est-ce que ça évolue, tout simplement. Donc là, il y a cette première base, ce qu'on appelle un scénario tendanciel. On se projette dans le futur en prenant les mêmes ingrédients qu'aujourd'hui. On voit quel va être le produit de sortie. Donc ça, c'est le scénario de base. Et ensuite, par rapport à ça, tout est possible. Tout est possible avec quand même des garde-fous qui est de garder toujours une gouvernance qui
qui permettent ce dialogue-là, de garder en tête les impacts économiques que ça peut avoir sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on va censurer, mais qu'en tout cas, il y ait systématiquement des signaux, des indicateurs qui permettent de qualifier aussi l'impact que ça va avoir tel ou tel scénario sur la ressource. Dans la particularité de la phase de diagnostic, c'est qu'on va construire un modèle qui va nous permettre de modéliser et d'envisager pour différents bouts du territoire, par exemple sur la haute vallée de la Drôme ou sur le Bèze, tel ou tel type d'évolution, soit des cultures, soit d'augmentation de population, je dis n'importe quoi, mais grosso modo sur ce bassin du Bèze, on va pouvoir vérifier quel va être l'impact sur la ressource en eau, l'impact sur les milieux. Et ça, pareil sur la vallée de la Roanne, pareil sur la haute vallée de la Drôme. Donc l'idée, c'est bien d'arriver à découper le territoire en petites mailles et systématiquement d'envisager pour chacun des scénarios, quels vont être ses effets sur la rivière et sa ressource en eau.
Est-ce que, à votre connaissance, est-ce que vous avez enquêté sur des territoires à peu près similaires au Diwa, dans d'autres endroits en France, qui ont déjà aussi amené une réflexion ou une politique de gestion un petit peu qui répondent un peu à cette problématique du réchauffement climatique?
Alors, il y a quelques expériences en France qui sont déjà engagées. Elles sont vraiment pas nombreuses. On est au démarrage de ce type de réflexion vraiment prospective et la particularité qu'on a sur le bassin de Drôme par rapport aux autres territoires qui sont déjà engagés là-dedans, c'est cette volonté de mobilisation des acteurs et de concertation. Ça, c'est vraiment au cœur. C'est ce qui fait vraiment, je pense, la force de la démarche. Donc, on a les voisins de l'Ardèche, pour répondre plus précisément à votre question, qui sont engagés là-dedans. Ils en sont à un stade un poil plus avancé que nous, avec de grosses difficultés pour trouver les solutions. Donc, là-dessus, il va falloir qu'on puisse capitaliser sur l'expérience des voisins, de manière à ce que derrière, on n'ait pas les mêmes écueils et qu'on puisse se sortir des impasses.
Et puis, phase importante, c'est l'information et la sensibilisation. Ça sera un gros travail. Est-ce que déjà, on peut dire qu'il y a un travail sur la sensibilisation qui est déjà bien avancé? D'ailleurs, est-ce que cette sensibilisation, vous la retrouvez dans les instances nationales ou dans les politiques nationales ou dans les collectivités territoriales comme la région et le département? Est-ce que vous vous sentez écouté de ce point-là?
Moi, je crois qu'en tout cas, on nous attend par rapport à ça. Et je crois que la communication, la sensibilisation, ça va être le sujet de demain. David l'a souligné tout à l'heure, on a des fois, nous, des actions en rivière qui sont mal expliquées, qui sont mal comprises. Vous avez souligné les travaux de Di, il y a un an, effectivement, où on est des mauvais communicants. Nous, on est persuadés de faire les choses comme il faut, mais on n'est pas bon de ce côté-là. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on doit corriger, parce que pour trouver l'adhésion d'un projet, il faut effectivement que les gens sachent ce qui se passe, sachent pourquoi on le fait, et sache quelles sont les conséquences de l'action. Et ça, c'est très important. Et là, on a vraiment un rôle important à jouer. Moi, je l'ai dit tout à l'heure sur la consommation d'eau, c'est des choses. Les gens ont des réflexes, il faut changer ces réflexes. Les gens, par exemple, ont toujours vu des fontaines couler dans un village. Il va falloir que peut-être l'été, ils voient des fontaines sèches dans un village et il faudra l'expliquer pourquoi est-ce qu'elle est sèche. Il y a des canaux qui coulent. Les canaux, ils sont fuyards. Il faut peut-être les remplacer par une conduite d'eau. Il ne s'agit pas de dire aux gens, t'arroses plus ton potager. Il faut effectivement se dire, la pelouse, elle va être jaune. Le potager, il peut être arrosé de façon raisonnée. Il y a des techniques culturales. On parle, ce quantitatif eau, il va jouer sur l'urbanisme aussi. L'urbanisme de demain, qu'est-ce qui va être? Est-ce qu'on va exiger que les gouttières de la maison soient reliées à une réserve d'eau? Moi, quand je vois effectivement des WC qui fonctionnent sur l'eau potable, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La réutilisation des eaux usées. De plus en plus de communes maintenant ont leur station d'épuration. qu'est-ce qu'on fait de l'eau à la sortie des stations d'épuration? Il y a de l'eau qui pourrait être utilisée sous forme, renvoyer de l'eau dans les WC, renvoyer de l'eau à l'irrigation, des choses comme ça. Il y a toute une... Il y a tout un imaginaire qu'il faut obtenir derrière tout ça. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la participation de tous. C'est bien collectivement qu'on trouvera des solutions et c'est par le collectif qu'on aura l'adhésion. Si on a de la réglementation qui nous vient de Paris, qui n'est pas toujours bien faite, là, ça sera le choc dans le mur parce qu'on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait une adaptation territoriale aux décisions qui sont prises.
Et oui, chaque territoire a son relief et son système hydronomique. Je sais pas,
hydrographique.
Hydrographique, pardon, merci. J'ai des lacunes, vous savez. Et puis, il y a cet aspect de sensibilisation. Vous parliez d'idées tout à l'heure sur la manière de pouvoir l'économiser. L'exemple des fontaines qui vont être stoppées. Est-ce que vous envisageriez plutôt d'y mettre un robinet, tout simplement? Est-ce que ça, c'est plus simple de manière à pouvoir gérer son débit à la demande?
Oui, on peut mettre un robinet. Il y a des fontaines qui peuvent aussi fonctionner en circuit fermé. Hein. C'est-à-dire que c'est une pompe qui renvoie l'eau en permanence. Et puis voilà, l'eau n'est pas potable et c'est tout. Mais moi, je crois qu'il y a plein de solutions. Ce qui est important, encore une fois, c'est une commune a une fontaine. Une commune, elle met un compteur d'eau. Donc on sait ce qui passe par la fontaine. Il y a de l'eau qui est là, présente à un moment donné. On peut l'utiliser. Sachant que souvent, ces fontaines, il y a une restitution au milieu naturel. Puisque bien souvent elles sont sur un circuit d'eau pluviale, donc il y a des retours rivières. Mais à une époque où effectivement on n'a pas d'eau, et on va voir ce que va l'arrêté qui va sortir ces prochains jours au niveau du comité sécheresse qu'on a eu lundi soir, on va voir ce qui va ressortir. Mais là, il y a vraiment une notion de crise là. Et quand on voit le débit de la rivière, on est vraiment historiquement à cette époque-là dans des débits qui sont très bas. Hein. Je crois que le débit c'est les années 50. Hein,
On traverse quand même une sécheresse qui est particulièrement sévère. On suit, nous, journalièrement, les débits. On a une station à Saillant qui permet de faire ce suivi des débits. Hein. D'ailleurs, tous les éditeurs peuvent aller voir les débits qui évoluent sur la station de Saillant. Il y a un site qui s'appelle Hydro-Réel. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Et on se rend compte qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure Pascal, avec le débit de sa source à Bellegarde, le débit qu'on a à Saillant, c'est un débit qu'on a en toute fin de mois d'août, mais sur des années très sèches. Et là, on est mi-juillet, et on est sur des débits. Là, hier, on était, ou même ce matin, on était à 1,6 m3/s. C'est vraiment très, 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 très bas. Et ça, ça a des conséquences sur les utilisateurs de la ressource, où on leur demande de faire des efforts. Et là-dessus, je reviens sur la communication. Il y a un vrai effort de sensibilisation. C'est-à-dire que au-delà du fait de se dire, oui, il y a des mesures de restriction, c'est qu'est-ce que ça implique pour moi en tant qu'individuellement ? Ça touche aux sciences comportementales. Quelque part, il faut qu'on arrive à faire comprendre qu'il y a un vrai effort à faire. C'est coûteux, c'est un effort qui est coûteux. Effectivement, c'est un coût. C'est pas qu'un coût monétaire, c'est que voilà, il y a un moment, ça coûte aux gens. Donc il y a ce premier impact-là. Et le deuxième aspect sur lequel j'aimerais aussi alerter, c'est sur l'impact sur la qualité de l'eau dans les rivières. Là-dessus, on a assez peu de communication, on a assez peu d'éléments à transmettre aux utilisateurs de la rivière. On a un site internet d'État aujourd'hui qui existe, qui s'appelle baignade.gouv.fr, et sur lequel on peut aller trouver les résultats des campagnes d'analyse que mène l'Agence régionale de santé, l'ARS. Il s'en fait une toutes les deux semaines, et ça permet quand même de suivre bon an mal an, en différents points du bassin, la qualité de l'eau. Mais ce type d'information-là, il faut qu'on arrive à la communiquer. Donc, c'est aussi pour ça que je me permets de le dire aujourd'hui. Hein. Il y a des sites qui existent, mais il faut encore qu'on améliore les choses de notre point de vue. Ça, c'est sûr.
Alors, il existe des panneaux d'affichage le long de la Drôme où sont placardées ces informations qui sont, d'après ce que j'ai compris, vite arrachées. Alors, pourquoi ? Ça, c'est une question autre. Et on n'aura pas le temps d'y répondre parce que là, l'émission se termine. C'est un vaste sujet encore. Peut-être vous viendrez nous voir de nouveau pour la rentrée, peut-être, ou même avant. J'espère pas, parce que ça pourrait être annonciateur de mauvaises nouvelles, j'imagine. Pascal Baudin, vous vouliez rajouter ?
Moi, je crois que les gens qui sont dans la rivière, au niveau du syndicat Mistry-Iverdrome, ou au niveau de l'Aigle, ou au niveau du Smijiba pour la partie Bouèche de la communauté de communes, je crois que les gens sont des passionnés de ce sujet. Donc, on pourrait effectivement en parler pendant des heures et des heures, parce qu'il y a énormément de choses à dire, quoi.
En tout cas, David Arnaud et Pascal Boudin, je vous remercie tous les deux d'être venus sur RDWA pour nous parler du projet SAGE 2050 et puis aussi de l'état de notre rivière de cet été. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous.
Au revoir.
Jamais une telle pureté.